Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Belle soirée qu'on a sur Québec. Et c'est un grand plaisir de vous accompagner. On s'appelle le Spacecast. Je m'appelle Jean-Francis Blais. Louis Gauvin également. Violent Lou.
Oui, monsieur.
Est avec moi et qui vous accompagne jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée du chum Max Lacasse. Excellent show d'ailleurs, encore une fois hier, le Max, qui est toujours extrêmement renseigné. Là. Tu sais, quand il fait son laïus, son monologue de début de show, man. Ce gars-là est tellement préparé, là, il peut affronter une armée, man, avec toutes les stats qu'il a d'accumuler.
Ah ben Max, moi je suis convaincu, un soir, il n'y a personne qui appelle, il finit à minuit pareil.
Ah, il peut le faire tout seul. Oh oui, ça donne qu'il est smart puis il peut prendre des appels. Il doit prendre des appels parce que c'est ça le contrat qu'il a, là, mais il a munitions pour le faire tout seul en mars. Oh, effectivement. Fait que manquez pas ça à compter de 22h avec le chum Max. Salut Max!
Hey,
salut Max! Au moins on a la santé. OK. Hey, dans un autre ordre d'idée, c'est ce fameux... En fait, c'est cette fameuse semaine sur deux où je m'aventure dans un terrain que je ne connais pas du tout, c'est-à-dire le monde de la chasse et de la pêche. Mais j'aime chacune des secondes où je fais ça en compagnie du meilleur de la business. Yann Monette des Fermes Monette est avec nous autres. Salut Yann.
Hey, salut les gars, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, écoute, nous autres, ça va bien. On est. Je vous parle en ce moment, puis je suis dans le coin de Rivière-Rouge où est-ce qu'il y a eu les grosses inondations. Là, on est là-dedans, peut-être, nous autres. Là.
Ah, ouais, OK. Hey, ben justement, Krim, parle-nous un peu de. Là, avec l'arrivée du beau temps, oui, il y a la fonte des neiges et tout ça qui arrive, ça peut créer des inondations, mais avant de tomber dans les inondations, la température dans laquelle on est actuellement, est-ce que c'est propice pour un type de chasse en particulier?
Ben, tu sais, en fait, que c'est sûr que le fameux. Les fameux matins frais, le soleil haut qui arrive vers 9h, on est drette dans le temps où est-ce que c'est la chasse aux dindons. Là, la chasse aux dindons, on se lève le matin dans un endroit de 3h, si ça ouvre vendredi, je ne me trompe pas dans quelques zones. Puis on se lève le matin à 3h du matin, il fait quasiment des fois moins 5, moins 8. Puis rendu vers 10h, c'est le fameux matin où est-ce que... Check en haut, puis il fait 15 degrés quasiment, mais c'est les journées parfaites pour faire du dindon.
Est-ce que t'aimes ça, chasser le dindon? Mettons que t'as hiérarchisé les types de dates, pas de dates, mais de chasse que t'aimes faire. Le dindon, y arrive-vous dans la liste?
Ben, tu veux, c'est une chasse qui est vraiment plaisante à faire parce que c'est une chasse qui est sur qui se fait sur le call. Fait que ça, c'est le fun de la prospection, la manière que ça se fait, tout ça. Pour ma part, c'est pas ma meilleure. Tu sais, moi, J'ai le chevreuil, j'ai l'ours, j'ai l'orignal, j'ai les oiseaux migrateurs, puis j'ai le dindon. Pour moi, le dindon, il est au bout, mais c'est une chasse, pour vrai, qui est vraiment cool à faire. Pourquoi? Ben, c'est justement parce que ça se fait sur le call. Fait que, tu sais, puis je vous le dis, il n'y a pas une chasse qui arrive avec la chasse au dindon le matin. Tu sais, quand tu lèves à 3h du matin, quand le soleil se lève, quand le dindon descend de l'arbre, tu vois tout ça, en fait. T'sais, tu vois tous les animaux se lever le matin.
Quand le dindon
tes
descend.
Tes dindons loin qui descend. Hein? Tes câbles, ils viennent. C'est une chasse qui est vraiment cool à faire.
Le dindon, il grimpe dans l'arbre?
Ben oui, c'est un oiseau. Fait qu'en fait, le soir, tu sais, comme n'importe quel oiseau, là, ça n'a pas de moyen de défense ou presque pas. Fait qu'en fait, le dindon, ce qu'il va faire, ben, vu que dans le noir, ça ne voit pas partout. Ben, le seul moyen, comme plusieurs oiseaux qu'il peut avoir autres au Québec, ben, quand ils arrivent, mettons, exemple, à Brunante le soir, ils ont des places où ils vont aller se percher, puis ils vont dormir là jusqu'au lendemain matin. Même si c'est une grosse bébite, t'as quasiment 20 livres, mais elle trouve quand même le moyen de se percher sur des branches.
Mais une dinde, excuse-moi pour l'ignorance, là, mais une dinde, oui. Ça peut-tu genre jumper, partir à voler? Ou ça va voler difficilement, là?
Ben non, ça vole très, très bien.
Hein? Ah, ouais?
Ben oui. C'est pas un oiseau qui va voler, mettons, comme un jet bleu, là. On s'entend, mais t'as pas de misère à voler du tout. Du tout. Tu as vu? Aussitôt, mettons, exemple, qu'ils ont peur, la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils partent à courir un peu puis ils se mettent à voler tout de suite.
OK. Ah, oh, ouais, wow. Et puis, ouais, quand ouais. tu dis que c'est une chasse qui se fait au corps, là, est-ce que c'est les gens ont un genre de sifflette ou un gadget électronique ou bien ça se fait à la bouche carrément?
Ben, en fait, les gadgets électroniques, c'est pas légal. Dans les lois, c'est pas légal, mais t'as des boîtes à dindons, t'as des plaquettes à dindons qui sont faites spécialement pour ça, qu'avec un bâton, tu vas venir frotter sur la plaque, tu vas faire le son de la femelle. Mais ce qui est très, très, très populaire aussi, en fait, ça s'appelle, c'est des diaphragmes. Fait que c'est une petite plaquette que tu vas venir te mettre dans la bouche, puis avec beaucoup de pratique, beaucoup de salive, tu viens à bout de lâcher deux, trois yelps avec pour sortir ton épingle du jeu.
J'ai déjà discuté de chasse aux dindons avec des auditeurs, puis certains me parlaient qu'ils avaient des genres de mannequins de dinde, comme pour les attirer. Est-ce que ça, c'est un essentiel?
Des décoys, en fait. Des décoys.
OK.
Exactement. Mais en fait, c'est le dindon, oui, sur le corps, ça marche, mais il faut toujours un visuel. Okay. Fait qu'en fait, ce qu'on va venir faire, c'est souvent, c'est qu'on va venir provoquer avec un décoy d'un dindon. Fait qu'en fait, c'est t'as la dinde qui est la femelle, puis t'as le dindon qui est le mâle, OK? Fait que souvent, ce qu'on va venir faire, c'est que le décolle du dindon est beaucoup plus gros, avec une grosse queue qui va dire comme quoi qu'il est en rut. Puis souvent, on va avoir des décolles de dinde avec différentes positions qui va justement faire chier la concurrence. On va descendre même.
Ouais.
Tu vas faire justement que ça va provoquer. Puis là, avec les calls, tu vas être capable de jouer avec de tout ça. Puis tu sais, il y a des gars aux États-Unis que je suis qui poussent ça loin. Là. Ils mettent des décoys. Je sais pas si on a le droit au Québec, mais tu sais, t'as des gars qui pognent des décoys et qui mettent ça sur des petits chars téléguidés pour faire tellement ça vrai que le dindon bouge, les gars callent. Tu peux pousser ça loin, là, ton dindon.
Aïe, aïe, quand même. Et est-ce que c'est une chasse qu'on fait, tu sais, dans le but de pas abîmer la viande? J'imagine que si tu tires ça au 12, tu vas comme un peu contaminer ta...
Ouais, ben en fait, tu peux le faire seulement qu'au 12. Tu peux le faire au calibre 20 puis au 12. Puis c'est tout, parce qu'en fait, c'est une chasse qui se fait au sol. C'est une chasse souvent qui se fait dans les champs. Fait que, tu sais, de faire ça à carabine d'un, tu peux pas, ça serait beaucoup trop dangereux, parce que souvent, il y a beaucoup de chasseurs qui vont chasser le dindon. Puis c'est un petit peu trop dangereux, mais au 12, de la manière que ça se fait pour avoir une shot clean vitale, c'est un tir qu'on va faire directement dans la tête. Tu vas mettre mes amours très rapidement.
Moi, je me rappelle, voilà une couple d'années, j'avais voulu y aller à la chasse aux dindons sauvages, mais il fallait passer un genre de cours supplémentaire là, de plus que le cours de chasse normal que j'ai, là, qui me permet de chasser le lièvre, la perdrix et tout le kit. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Oui, bien, avant, c'était comme ça. Je te dirais, il y a à peu près, je pense que c'est à peu près depuis un an ou deux qu'on n'est plus obligé de faire justement le cours. Fait que ça, c'était le fun, parce que, tu sais, la seule affaire que je me souviens du cours, honnêtement, là, c'est comment qu'ils te montrent traverser une clôture, de mettre ton 12 comme du monde, traverser la clôture, de reprendre ton 12. C'est la seule affaire que je me souviens du cours, moi. Puis que le dindon, c'est une chasse qui finit à midi.
Ah, qui finit à midi?
Oui, exactement, qui finit à midi, parce qu'en fait, vu que c'est le temps souvent où est-ce qu'ils vont avoir leur petit, ben dans la réglementation, ils vont donner justement la chance aux femelles d'aller couvrir, si je ne me trompe pas, les œufs, ou bien, c'est des affaires comme ça. Fait que ça donne plus de chance au dindon que de le chercher toute la journée. Puis, honnêtement, c'est quasiment mieux de même, parce que trois quarts du temps, je vous dirais que les gars rendus à midi sont au bout depuis 3 heures. Fait que les gars vont se coucher direct.
OK. Comment on fait pour. Puis, c'est peut-être une question super niaiseuse, puis tu vas me dire, serre tous tes yeux, mais en même temps, tu sais, comment faire que dans un champ donné, tu sais, vous vous ramassiez pas comme 27 groupes de chasseurs à chasser le même troupeau de dindes, tu sais. Y a-t-il une façon de mettre comme une réservation sur un champ? Comment ça fonctionne, hein? Comment s'assurer de ne pas se retrouver dans une espèce de chassé croisé? Tu sais, que tu vois pas l'autre chasseur, puis finalement, sans le savoir, vous êtes les deux dans la ligne de mire de l'autre.
Ouais. Ben, tu sais, en fait, je te dirais que le Québec, le trois-quarts des têtes du Québec est privé.
Okay.
Fait que quand que tu vas, exemple, que tu vas prospecter puis que tu vas trouver un cultivateur, ben c'est lui habituellement qui va te le dire. Fait que tu sais, s'il dit oui, j'ai déjà des gars, tu sais, moi ça m'est arrivé, exemple, au Canard, j'étais en train de prospecter, j'ai eu la permission d'un cultivateur, puis il y avait déjà des gars qui chassaient là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au cultivateur le numéro de téléphone des gars. J'ai appelé les gars, je disais « Salut les gars, c'est Yann Monnette. Écoutez, moi, je viens d'avoir la permission, on s'en a que vous chassez déjà là. Où est-ce que vous chassez? » Fait que là, il va dire « Bon, moi, je suis à côté du sapin vert à gauche au fond du champ. Bon, mais il n'y a pas trop. Moi, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à côté du sapin rouge à l'autre bout à droite du champ. C'est comme ça souvent qu'on fait. Puis c'est, écoute, c'est très, très rare. Puis tu sais, s'il y a des chasseurs, puis ton, tu sais, que le cultivateur, il dit t'es tout seul, puis qu'il y a des chasseurs, c'est pas supposé arriver. Puis c'est justement là pourquoi que c'est une chasse qui est juste au 12. Parce que tu sais, c'est une chasse que tu vas être directement au sol, que t'as pas de sort, que tu vas être hyper camouflé. Fait que c'est pour ça. Faut quand même que tu t'organises pour voir dans les alentours s'il n'y a pas de chasseur. Mais c'est tout ce qui est au 12, c'est pas quelque chose qui m'énerve bien bien.
OK. Hey, justement, tu as amorcé la chronique en disant que tu étais dans des territoires quand même assez inondés. C'est la fonte des neiges et tout ça. Parle-moi un peu des impacts des sols inondés sur les animaux.
Bien, je te dirais, pour vrai, sur les gibiers, ça change pas grand-chose pour eux autres. Parce que sont habitués, puis tu sais, souvent, ils vont savoir bien en avance.
OK.
Fait que souvent, genre, les chevreuils, ils vont se tasser. Ça change. S'il y a une affaire qui change beaucoup, c'est pour les oiseaux. Tout ce qui est canard ou tarde, ça change quelque chose. Parce que pour eux autres, des temps d'inondation dans les champs, c'est tu sais, parce que n'importe quel oiseau, exemple, des oiseaux migrateurs, c'est une proie. Fait que, tu sais, eux autres, d'aller dans un champ, ils trippent pas. Mm-hmm. Fait que s'ils ont la chance d'être de rester dans l'eau puis de rentrer dans un champ, bien, toutes les petites graines, les petites repousses qu'ils vont avoir, souvent, ça remonte avec les inondations. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça va créer de la nourriture comme ça se peut pas pour les oiseaux. Fait que c'est pour ça, souvent, qu'à cette date-là, on va être en plein champ, inondé, on va avoir des tonnes et des tonnes d'outardes, des tonnes et des tonnes de canards. Bien, c'est justement à cause de ça. Fait que les inondations, souvent, ça l'emporte du bien. Mais pour d'autres, pour les maisons, tout ça, ça apporte pas mal plus de mal souvent que de bien.
Mmh. Ah, et puis j'imagine aussi que quand tu es chasseur puis que ton territoire où tu as l'habitude de chasser est inondé, je veux dire, ça vient nuire un peu à l'expérience, là?
Bien, un peu, mais tu sais, au printemps, les inondations, c'est bien rare que c'est bien, bien long. Fait que tu sais, le temps que la chasse ouvre, tu sais, au dindon, oui, ça peut arriver parce qu'on le cherche justement dans les champs. Mais habituellement, moi, honnêtement, j'ai jamais entendu parler des chasseurs dire qu'ils n'ont pas pu chasser le dindon parce que le champ est inondé à grandeur. Okay. Pour vrai, moi, c'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, pour la chasse au dindon, pour les chasses printanières, je te dirais, ça touche pas bien ben à ça. C'est sûr que si il faut que tu te rendes dans ton territoire et que le chemin il est inondé, ben là, c'est une affaire. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, après ça, la prochaine chasse qui va ouvrir, c'est l'ours au mois de mai.
OK.
Fait que, tu sais, là, on est à la fin avril. Habituellement, les inondations, c'est bien, bien rare que ça dure là, jusqu'à mi-mai, fin mai. Là.
Est-ce qu'il y a une chasse qui est plus beurrante que les autres? Y a-t-il une chasse qui est. En fait, quelle est la chasse la plus. Tu sais, que tu te dis, ah, eux autres, ils veulent, là, c'est des crinqués parce que c'est pénible, t'es dans des conditions pas le fun, t'en sors de ça tout beurré. Y en a-tu une qui est plus intense que les autres?
Ouais, la chasse la plus intense que j'ai faite, là, c'est la chasse à l'oie blanche à l'île aux grues dans le bout de Québec.
Ah, oh, OK, pourquoi?
Parce que c'est une chasse que t'es dans vase. Tu ressors de là, là, avec des raquettes de vase.
Ah ouais?
C'est une chasse que j'aime tellement faire, là. Tu ressors de là, t'es boité, mais c'est tel. Écoute bien, c'est une chasse que d'un, à l'île aux grues, ça se fait amarrer, OK? Fait qu'il y a des vieilles, vieilles caches qui sont là que quand la marée va descendre, les caches vont sortir parce que c'est des trous que les gars, ils ont fait dans la vase il y a X nombre d'années.
OK.
Fait que quand la marée descend, ben toi, tu vas marcher, tu vas suivre la marée. Quand t'arrives à la cache, t'as ta chaudière, il faut que tu vides ta cache d'eau au complet. Puis là, tu te dépêches à vider ça d'eau pour t'asseoir dans le trou pour que les oies blanches passent puis que là, t'as une chance de récolter.
Puis la cache, c'est une genre de tranchée, genre, qui a été creusée?
C'est un trou. Tu sais, je te dirais, c'est un trou d'à peu près 4 pieds de large par 5 pieds de, mettons, un 5 pieds de long par 4 pieds de large.
OK.
Puis t'as des bancs là-dedans, tu t'assis, puis t'as juste la tête qui dépasse juste pour dire hauteur de l'eau, puis tu fais tes chasses comme ça. C'est une chasse qui est demandant physiquement pas mal. Mais maudit que c'est une belle expérience.
Ah, c'est cool, ça. Ouais. Hey, je veux qu'on jase également, parce que parmi dans les sujets que tu m'as envoyés, je trouve ça très intéressant, l'idée de parler du tir sportif. Puis, tu sais, ici, c'est vraiment pas dans notre culture. Puis, il suffit de faire un vox pop dans la rue puis réaliser qu'il y a une espèce... En tout cas, du moins, mon impression, c'est qu'il y a une incompréhension profonde chez la majorité des gens, mettons, dans les milieux urbains, disons-le, là, de pourquoi quelqu'un voudrait un gun. Tu sais, quel fun tu tripes là-dessus.
Autre
souvent...
que pour faire du mal.
Oui, autre que pour faire du mal, parce que dans les, je pense dans l'idée des gens, c'est profondément ancré que c'est une machine à tuer et donc à faire la guerre. Fait que quand tu parles, mettons, de tir sportif, je pense que la majorité des gens dans les milieux urbains encore, là, je le précise, ils comprennent pas ça peut être quoi.
Ben, c'est, en fait, j'ai déjà écrit un article là-dessus que je suis allé chercher jusqu'à à peu près 5000 lectures, OK, sur le site donjons.net. J'ai écrit justement un article sur ça, sur la passion des armes. On pourra en parler longtemps. Pour une passion, c'est une passion. Il y en a, c'est dans mes chums que je connais, il y en a, exemple, qui peut avoir une passion pour les souliers Nike. Il y en a qui peut avoir une passion pour les montres Rolex, les crayons. Ben nous autres, c'est dans les armes. Fait que, tu sais, c'est une passion comme les autres. Puis c'est justement ça que je dis dans mon texte. C'est que tout le monde pense que quand, exemple, qu'on va faire du tir sportif, qu'on va aller, mettons, exemple, au Montreal Ski Club, qu'on va aller tirer au club de tir, puis que c'est juste une gang de boys qui vont décider de boire de la bière, prendre des coquilles, se mettre ça sur la tête, pogner, puis genre, ah ouais, le gros lance ça. C'est pas de même.
Mais j'imagine, c'est en fait, il doit même pas avoir de l'alcool dans un centre de tir.
Ben, en plus, c'est ça. Il y a pas d'alcool, puis t'as beaucoup de place, exemple, où est-ce que moi, je vais, que quand, exemple, que tu y vas, puis même aux États-Unis, là, quand je suis allé aux États-Unis, là, on est allé dans un club, c'est le Vegas Pro Gun, OK? Puis cette place-là, tu payes pour aller tirer. Puis avant d'aller tirer, ils te donnent un bracelet, ils te mettent le bracelet, puis si tu décides d'aller au bord, de te prendre une bière, ils coupent ton bracelet, puis pour toi, ta journée vient de finir là.
Oh, crème, OK.
Fait que, tu sais, ici, c'est semblable. Tout le monde se check. Il y a des instructeurs partout. Puis s'il y en a qui pensent qu'à faire du pigeon d'argile, c'est rien que de pogner ton dos, de mettre une balle dedans, puis de tirer, c'est pas ça. Il y a une technique en arrière de ça. Il y a une manière de penser... De ta respiration, de prendre le temps d'avoir la bonne position, de regarder ton vent, d'apprécier le moment. Le meilleur exemple, là, mon chum, justement, avec qui je suis en ce moment, quand il a commencé à tirer du dos du pigeon d'argile, mon chum, c'est un petit nerveux, OK?
OK.
Fait que quand on tirait du pigeon d'argile, on était avec d'autres gars, puis les gars, c'était ça, genre, ouais, le gros, tu sais, puis le pigeon sortait, il tirait, puis il venait pas à bout de le poigner. Je l'ai regardé, son nom, c'est Jay. J'ai dit, arrête de stresser, prends le temps, suis le pigeon, puis quand tu vas lâcher ton coup, continue ton tir, puis relax. Quand j'y ai dit ça, il a compris tout de suite, le pigeon, il a sorti, il a relaxé, il a pris son temps, puis il a poigné le pigeon.
Ah oui.
C'est pas quelque chose que tu peux être tes nerfs. C'est pas quelque chose que tu peux faire vite de même. Quand, exemple, qu'on va aller faire du tir sportif, c'est justement de un pour la fraternité des tireurs. Fait que c'est quand, exemple, qu'on va aller, tu sais, moi, une place que j'adore aller, c'est même pour les gens qui veulent apprendre puis tout, puis même s'ils n'ont pas de permis ou quoi que ce soit, pour chez vous, c'est un peu loin, là, mais au Montreal Ski Club, dans les alentours de Montréal, ils offrent tout ça.
Okay.
C'est une place où est-ce que tu as un lounge pour relaxer, il y a une petite boutique de linge Beretta, ils ont un petit bar pour que quand tu finis de tirer, tu peux te coller de la bouffe, tu peux manger. C'est toute une grande fraternité de tireurs qu'on va jaser, on va échanger. C'est pas juste de tirer, c'est tout alentour. Il y a des places, souvent, il faut s'informer. Mais moi, j'ai un chien de chasse. Je suis capable d'emporter mon chien avec moi, de l'attacher après moi, de tout faire les affaires en bonne et due forme. Fait que, c'est pas juste de tirer. C'est justement, je suis posé d'organiser ça avec mes chums. On va partir... 3-4 chums ensemble, on va se rendre au Montreal Ski Club, je vais leur montrer comment ça se passe, ils vont suivre une formation sur, exemple, faire du ski, ils vont comprendre, ils vont apprendre, ils vont tout savoir. Fait que, tu sais, C'est plus juste de tirer, rendu là.
Ouais, moi, ce qu'on m'a souvent dit, là, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu des questions par rapport à ça. On m'a souvent comparé ça au dessin. C'est-à-dire que quand tu dessines, là, t'es focus sur ce que tu fais et rien d'autre. Et c'est ça qui est souvent recherché par les tireurs sportifs. C'est le moment de contemplation puis de quasiment de méditation quand vient le temps de viser. Là, t'es focusé, moment présent, tu fais ce que t'as à faire.
Je pourrais dire que c'est la même affaire que le golf. Ben, tu sais, Yann, oui, t'es bien placé. Tu fais de l'escalade.
Ouais.
Quand tu fais de l'escalade, là, entre toi et moi, là, quand t'es avec tes grappins pour je sais pas si c'est comme ça que t'appelles ça, là. Mais quand t'arrives pour grimper, là, pour que t'aies toute ta tête, là.
Ah, ben, il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est moi et puis la montagne.
Tu comprends, parce que c'est le même principe que de faire. Tu sais, parce que je regarde, c'est quand même extrême, là. Qu'est-ce que tu fais? Que tu fasses ça, que tu joues au golf, que tu fasses du tir sportif, que tu fasses whatever. Si tu n'es pas concentré, tu es sûr que tu vas manquer le pied et que tu vas te planter.
Mm-hmm. Est-ce que.
Vas-y. Au bout de la ligne, là, c'est pas juste de prendre un arbre, juste de tirer. C'est tout alentour qui est le fun.
Est-ce qu'au Canada, on est un peu mal pris en termes de tir sportif dans le sens que les armes qu'on peut acheter rendent le sport plus plate que ce qu'il est aux États-Unis, par exemple?
Moi, j'ai l'impression, Yann, là, avant que tu aies réponse, j'ai l'impression que si tu expliques au commun des mortels que tu veux, mettons, faire du CQB, là, les gens qui louisent vont faire « Oh, le monsieur veut se pratiquer à faire une fusillade dans les écoles. » Ou tu comprends ce que je veux dire? T'sais, pourtant...
Ben, c'est ça le trouble, c'est que les walks de ce monde font que ils ont tellement peur que d'avoir peur qu'ils font peur à tout le monde. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand t'arrives pour acheter une arme, puis tu sais, dans toutes les armes qui ont banni, là, il n'y a pas de différence entre un arme de chasse puis un arme de supposée guerre qu'ils disent. Parce qu'un arme semi-automatique, c'est un arme semi-automatique. C'est pas parce qu'il y a un camo qui est moins dangereux que le noir ou whatever. Tu sais, là, tu sais, puis tu sais, je vous l'ai déjà dit, tu peux avoir une Civic avec un moteur de Ferrari, puis tu peux avoir une Ferrari avec un moteur de Civic. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est tout le monde bout de ça. Puis, tu sais, je reviens souvent à mon texte, là, mais j'ai beaucoup, beaucoup de personnes que quand. Parce que moi, j'ai étudié dans les alentours de Saint-Jérôme, OK, en vente, puis c'était tout du monde qui n'était pas conscient de ça. Puis quand j'ai écrit ce texte-là, il y a à peu près 3 mois, j'ai tout réécrit à ma gang de Saint-Jérôme. J'ai dit, hey, salut tout le monde, j'ai écouté, j'ai écrit cette affaire-là, c'est parce qu'on se parle encore. Puis j'ai dit, allez lire ce texte-là, puis allez comprendre c'est quoi ma passion, parce que, tu sais, à Saint-Jérôme, c'est comme Montréal, là, c'est du monde de la ville qui comprennent pas notre manière de penser en campagne. Puis quand ils ont fini de lire mon texte, tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont dit?
Je sais pas.
J'aimerais vraiment ça, essayer ça avec toi, Yann.
Ah ouais. Mais le pire, c'est que des gars comme toi et ton père,
C'est ça, c'est de bien l'expliquer pour que le monde comprenne c'est quoi. Puis, tu sais, il y a un an, j'ai perdu mon grand-père. Puis, ce qui m'a permis de passer à travers, c'était les armes. De manipuler les armes, d'aller au chantier, de me vider la tête. C'est ça qui m'a permis justement de ça. Fait que, tu sais.
Avoir une passion.
Ben oui, c'est très ça. C'est comme n'importe quoi d'autre. Puis je nomme pas de nom parce que j'ai pas le droit. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnalités publiques au Québec qui se cachent d'avoir des armes, de faire du tir sportif. Ça devrait pas. Tu devrais pas cacher une passion.
Oui. Ah, je suis complètement d'accord. Effectivement.
C'est à peu près ça. Mais tu sais, s'il y en a qui veulent lire ce texte-là, allez en fait sur rongeurs.net, cliquez sur l'onglet blog. Allez sélectionner dans tous nos sujets ceux que Yann a écrit, puis trouver, là, c'est une passion pour les hommes qui est mal compris.
All right. Eh bien, absolument. Puis je pense que des gens comme toi, comme ton père, ça aide à... Tranquillement, pas vite, je te dirais pas que c'est une bataille facile, là, parce que c'est culturel ce que vous, entre guillemets, affrontez.
Ouais.
Mais
ouais.
Je pense que des gens comme vous, c'est bon pour la communauté des chasseurs, parce que il y a l'inverse aussi, je pense que t'en es conscient, là, des genres de pro-gun que t'es écoutes, tu fais comme... Ben, lui pallie pour des patentes de masculinité pas avouées.
Ben, c'est vrai ça, puis tu sais, mis à part de parler de la chasse, t'as la chasse qui est un, t'as le tir sportif qui est deux. Il y a beaucoup plus de tireurs sportifs au Québec que de chasseurs.
OK.
Fait que c'est on essaie de montrer la différence entre le tir sportif et la chasse. Parce que quand vous faites du tir sportif, ça a zéro rapport avec la chasse. Zéro, zéro, zéro.
Yann, un gros merci de nous avoir jasé ça ce soir. Ça a été, encore une fois, très, très, très intéressant. Tu m'emmènes tout le temps des places que je me doute jamais, puis c'est toujours le fun.
Un gros merci à vous autres, les gars, puis on se retrouve dans deux semaines.
Absolument. Yes,
bon, ben faites un gros attention à vous autres. Moi, je retourne dans l'eau, là, mais Malawa, tu m'as gagné correct.
C'est good. Hein, merci, Yann, à dans deux semaines.
C'est bon, un gros merci à vous autres, les gars. Là.
Salut, bye-bye. Le chum Yann Monette, le fils de l'autre, comme on dit, ou plutôt... Son père a un fils.
Ouais, exactement. Maintenant, hein? C'est rendu ça.
C'est à l'envers, exact. Yann Monette, il est à nous autres. J'adore Jean-Zin, ce gars-là.
Salut. C'est toujours le fun.
Une question sur deux, je veux dire, j'étais un total idiot de poser cette question-là, mais on connaît ce qu'on connaît.
Ouais,
qu'est-ce
que tu veux? T'es pas le seul, là. Il y a certainement plein de nos auditeurs qui en apprennent
tous les coups. J'ai allumé... Puis tu sais, des fois, les réponses à nos questions sont d'une simplicité désarmante. Puis j'aurais pas pensé ça, man, que la prospection, c'est de promener... spotter des dindes sur un terrain, un champ qui appartient à un cultivateur, puis juste aller cogner, demander si tu peux chasser là. J'aurais jamais pensé à ça.
C'est la grosse base, mais c'est de même ça.
Ouais, mais moi, j'étais convaincu qu'il fallait aller, mettons, sur le site de la CEPAC, cocher chasse, voir c'est où les spots, louer un spot, tu sais...
Il y a moyen de le faire de même, mais...
J'imagine, tu sais, je me souviens, mon chum Vince, son père, feu M. Cochon, au domaine Poutrincourt, je pense. Je sais qu'il y avait de la pêche, mais tu peux chasser, là, aussi. Fait que, tu sais, je pensais que c'était tout le temps dans des places de même, réservées, isolées. Exact, pourvoirie, c'est le mot que je cherchais.
Mais non, tu sais, il y a plein de moyens de chasser, comme nous autres, on chasse sur une zec.
Ça, ZEC, c'est quoi que ça veut dire, ça?
Zone d'exploitation contrôlée, je pense.
OK.
C'est un genre de... Plus corrigez-moi les auditeurs si c'est pas ça, là. Mais c'est un genre de territoire là, que les gens se partagent ensemble. Tout le monde est un peu propriétaire, tout le monde l'est pas vraiment, là. Puis y a des assemblées générales, puis le monde se pogne. Puis...
Tu vois, qu'est-ce qu'une ZEC? Sur réseauzec.com.
Ah ouais, donc.
Les zones d'exploitation contrôlées, un morceau de robot pour toi, sont des territoires de chasse, de pêche et de plein air que l'on retrouve au Québec. Elles sont généralement situées sur les terres de l'État, puis administrées par des organismes à but non lucratif. Elles sont chargées de l'aménagement, de l'exploitation et de la conservation de la faune, en plus de faciliter l'accès au territoire pour les usagers.
Pas mal ça. Là, s'occupe de faire des chemins, puis il y a des ZEC qui ont des activités, d'autres que non. Là.
Une ZEC est un territoire accessible à tous les amateurs de plein air, contrairement aux autres territoires fauniques. Il n'est pas nécessaire de planifier le séjour longtemps à l'avance ou de prévoir des réservations. Voici les étapes à suivre. Se rendre au poste d'accueil, s'enregistrer, payer les droits exigibles, pratiquer vos activités, déclaration de sortie, puis bye-bye.
En théorie, c'est de même. En théorie, t'arrives à la ZEC, tu dis « je m'en viens chasser », puis là, ils te font payer, puis là, tu vas chasser. En pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Parce qu'il y a... Okay. On serait pas supposé d'être de même, mais sur les ZEC, il y a un petit peu des territoires, là, des gens qui chassent à la même place depuis des années, des années, des années, des années, qui mettent leur pancarte de chasseur à l'affût, qui vont s'occuper du territoire, tu sais, qui vont aller mettre des blocs de sel, qui vont faire des salines à l'année longue, qui vont entretenir le dit territoire.
OK, se l'ont approprié, mais ils l'entretiennent.
Ouais, c'est okay. Ça, tu sais. Puis pas vraiment à ce monde-là. Techniquement, tout le monde a le droit d'y aller, mais...
Ça serait, j'imagine, super mal vu d'y aller.
Oui, puis souvent, ça va finir... Tu sais, c'est pas une bonne idée de chercher le trouble avec du monde chaud qui a des guns.
Parce que dans le réel, ça boit à la chasse? Dis-moi la vérité.
Ben, le soir, pendant que tu chasses, non, là. Mais le soir, quand la chasse est finie, ça boit un coup. Puis des fois, mettons, t'as tué, puis là, c'est l'après-midi... Tout est fait, là, tu bois ta bière, t'es plus à chasse, mais t'es dans le territoire quand même. Puis là, il arrive un bozo en quatre roues avec son gun sur le dos puis son dossard. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, mon... Ça peut brasser pas mal, là.
Okay.
Pas mal, pas mal, pas mal. Même si, légalement, il a le droit d'être là, puis t'as pas le droit de dire qu'il a pas le droit d'être là.
Je comprends. Il y a comme une...
C'est la loi de la jungle, là.
C'est ça, il y a les lois non écrites.
C'est ça,
OK.
Fait que tu trouves un petit coin perdu d'une faune d'une zec, puis peut-être que tu vas être bon pour chasser, là, mais moi, je conseille pas, là.
Quand je vais à... Tu sais, le chemin de terre qui sera à Vallée du Bras du Nord où je loue des yurts, c'est une zec, ça?
T'es sur le bord de la ZEC Batiscan-Nelson. Si tu continues le chemin de terre pour se rendre à Vallée-Bras-du-Nord, ça, c'est le rang Saguenay, là.
Okay.
Ça, c'est des maisons, c'est du monde, c'est tout des terrains privés. Juste après, mettons, tu continues 2 km plus loin là, que l'accueil, le dernier accueil de la De la
Shanahan.
Oui, c'est ça. Il y a la Quai-Quentin, puis après ça, il y a l'autre. Là.
Ouais.
Je les mélange tout le temps, les deux. Mais juste un petit peu plus loin, la ZEC Vatican-Nelson commence.
Ah, OK. Puis il y a un poste d'enregistrement, comme
ouais.
on nous dit là.
Oui, exactement. Okay. Tu continues le chemin, t'arrêtes au poste, puis tu payes ton droit de passage, puis dépendant des activités que tu veux faire, là, un supplément, puis les nuits, si tu veux être en camping ou whatever. Mais tu sais, comme moi, mon chalet, le chalet à mon père, ouais. il est sur une ZEC.
OK. Okay.
Tu sais, le terrain est comme loué, mais le chalet est à nous.
OK. Ah, ouais. Ah, c'est spécial quand même.
C'est bien bizarre, une ZEC, mais c'est quand même le fun.
All right. Hey, on fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. On vient.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.